Ici René Barbin, je vous présente une émission un peu spéciale à l'occasion de la fête du 1er mai, qui est la fête des travailleurs, c'est le mois de Marie, c'est une évocation aussi à Saint-Joseph, patron des travailleurs. Et avec Raymond Beaugrand-Champagne, nous allons essayer de parcourir un itinéraire de réflexion, de lecture sur ces thèmes. Alors, M. Beaugrand-Champagne, vous commencez par...
Mais il est bien normal de commencer avec Marie. C'est Radio Ville-Marie, c'est le mois de Marie. Et je crois que souvent la dévotion à Marie a pris des allures qui ont pu déplaire à certaines personnes en dehors de l'Église. Et même à l'intérieur de l'Église, et pourtant, Dieu sait que le respect que l'on doit quand on est chrétien à l'égard de la mère de Jésus de Nazareth est tout à fait normal. Un jour, je discutais comme ça avec un protestant fort connu à Montréal qui disait que nous n'avions pas raison de réciter des « Je vous salue Marie » ou de rendre hommage à Marie, et que tout hommage devait être adressé à Jésus. Et je lui ai dit en blaguant, « Si jamais je vous invite chez moi et que ma mère est là et que vous ne la salueriez guère, vous lui tendriez peut-être la main en arrivant, mais vous ne lui adresseriez jamais la parole durant la soirée, même à table, je serais vraiment très blessé et même insulté. Je crois qu'il est normal que vous ayez à l'égard de ma mère quelques rapports amicaux durant la soirée où vous passeriez chez moi. C'est la même chose, nous, chrétiens, orthodoxes, catholiques et même les luthériens aujourd'hui, et en particulier les anglicans, nous vénérons Marie et nous la lui rendons hommage parce que elle a été vraiment intimement unie à Dieu, dans ce oui qu'elle a prononcé et que l'on fête le 25 mars, le jour de l'Annonciation, dans un oui qui a fait d'elle la mère de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est Dieu lui-même qui s'incarne, croyons-nous, et ainsi on a toutes les raisons de lui rendre hommage. Et on a pu retracer d'ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec les pères de l'Église et des théologiens à travers les temps, et on retrouve ça chez les pères grecs aussi, et de l'Église orientale, donc des orthodoxes. On retrouve ça chez les anglicans, et comme je disais tout à l'heure, chez les luthériens, qui de plus en plus, n'est-ce pas, reviennent à Marie, hein, et l'honorent de plus en plus. On trouve même de très beaux textes chez de grands théologiens protestants de nos jours. Il y a un retour vers la Sainte Vierge en ce début du mois de Marie. Je crois qu'on peut considérer chez les grandeurs de Marie des signes d'unification, d'unité. Les gens vont peut-être commencer à comprendre à travers le cœur de la Sainte Vierge quelque chose qui peut nous rassembler. Oh, c'est surtout le Christ qui doit nous rassembler, c'est sûr. Mais je crois que la mère de Jésus peut nous rassembler.
Or, là, je vous vois avec un livre en main, là, c'est un...
Oui, c'est un livre assez étonnant. C'est Marie dans la Bible... Marie dans la Bible, c'est déjà paru il y a plusieurs années, et on retrouve dans ce livre, qui est très bien illustré d'ailleurs en couleur, tout ce qu'il peut y avoir de trait à Marie. Et c'est surprenant tous les textes que l'on retrouve en bas de page dans ce livre, que vous ayez l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Romains, les Philippiens, les Hébreux, de Saint Jean, etc. Mais aussi pour l'Ancien Testament, il y a trois textes de base, hein. Et je pense bien que la plupart des gens les connaissent, on les cite souvent dans la liturgie, on revient souvent là-dessus. Et ceux qui ont peut-être quitté l'Église, la pratique religieuse, se souviendront d'avoir entendu au temps de Noël des textes d'Isaïe en particulier, où Isaïe dit « Le Seigneur va nous donner un signe. Voici la jeune fille est enceinte. Voici, n'est-ce pas, la jeune fille est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Yahvé fera venir sur toi et sur ton peuple des jours tels qui n'en étaient pas venus de pareil depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda, et tout le pays deviendra épine et ronce. » C'est un peu compliqué, mais l'essentiel, c'est la jeune fille est enceinte, et il ne dit pas ici la Vierge, n'est-ce pas? La jeune fille est enceinte et va enfanter un fils. Mais dans la tradition... On est revenu au mot « vierge » dans l'ancienne à cause de l'ancienne traduction grecque, hein, qu'on met plutôt « vierge » que « jeune fille ». Et ce qui compte surtout pour nous, c'est le nom symbolique qui est donné au Christ, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous. C'est très, très important.
On va écouter un peu de Grégorien pour nous permettre de méditer peut-être ce beau texte d'Isaïe.
Oui, on pourrait méditer ce texte fondamental dans l'Ancien Testament qui, d'après toute la tradition chrétienne, annonce Marie.
Alors, vous avez sous les yeux un texte de l'Ancien Testament aussi,
oui,
du prophète Michée.
Bien oui, ça date d'environ 735, environ avant notre Seigneur, donc bien des siècles avant la venue de Jésus et la naissance de Marie. Et Michée écrit ce texte étonnant qui revient souvent dans notre liturgie. C'est de toi, Bethléem, que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent aux jours antiques de la dynastie davidique. Yahvé abandonnera son peuple jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter. Et on a toujours vu dans ce texte une annonce de Marie et de Jésus. C'est un très beau texte, mais il y a aussi celui de la Genèse, n'est-ce pas? Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il s'adresse au serpent tentateur, c'est dans la Genèse. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. C'est pour ça qu'on représente souvent la Sainte Vierge, on voit ça sur des images ou dans des œuvres d'art, la Vierge qui se tient debout sur un serpent qui est le... Pourtant, il y a des serpents qui sont fort sympathiques et même de très beaux serpents, mais c'est... Le serpent a toujours une connotation dans l'imaginaire humain, partout, dans toute la Terre, je crois, du mal... d'un être un peu visqueux et dont la plupart des gens ont peur. Hein. Et ces images sont fort belles. Mais à travers les textes dans l'Église, il y a eu des milliers de textes. Il y a des textes sur lesquels on viendra durant le mois, et un en particulier, un de Jean-Paul Sartre, qui est un des plus beaux, à mon avis, qu'un être humain ait écrit sur Marie. Ça peut vous sembler curieux.
Mais je suis très surpris.
Et oui, c'est Jean-Paul Sartre qui avait écrit ça dans un camp de concentration lors de la dernière guerre, à la demande d'un jeune jésuite qui n'était pas encore ordonné prêtre et qui était enfermé avec lui. Et c'est super, mais je vous le lirai dans quelques jours. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte de Michel Coast. Michel Coast est un prêtre du Havre, en France, que j'avais interviewé au tout début des émissions Rencontres que je réalisais à Radio-Canada, à la télévision. Ce texte est magnifique, nous rappelle Charles Péguy, n'est-ce pas? Alors voici ce texte. Ma plus belle invention, dit Dieu, c'est ma mère. Il me manquait une maman et je l'ai faite. J'ai fait ma mère avant qu'elle ne me fasse, c'était plus sûr. Maintenant je suis vraiment un homme comme tous les hommes. Je n'ai plus rien à leur envier car j'ai une maman, une vraie. Ça me manquait. Ma mère, elle s'appelle Marie, dit Dieu. Son âme est absolument pure et pleine de grâce. Son corps est vierge et habité d'une telle lumière que sur terre, je ne me suis jamais lassé de la regarder, de l'écouter et de l'admirer. Oh, elle est belle, ma mère, tellement que, laissant les splendeurs du ciel, je ne me suis pas trouvé dépaysé auprès d'elle. Pourtant, je sais ce que c'est, dit Dieu, que d'être porté par les anges. Eh bien, ça ne vaut pas les bras d'une maman, croyez-moi. Ma mère Marie est morte, dit Dieu, et depuis que j'étais remonté vers le ciel, elle me manquait, je lui manquais. Elle m'a rejoint, avec son âme, avec son corps, directement. Je ne pouvais pas faire autrement, ça se devait. C'était plus convenable. Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s'immobiliser. Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient pas rester clos. Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvaient se figer. Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne pouvait pourrir, mêlé à la terre. Oh, je n'ai pas pu. Ce n'était pas possible. Ça m'aurait trop coûté. J'ai beau être Dieu, je suis son fils. Et c'est moi qui commande. Et puis, dit Dieu, c'est encore pour mes frères les hommes que j'ai fait cela. Pour qu'ils aient une maman au ciel, une vraie, une de chez eux, corps et âme, la mienne. Et c'est fait. Elle est avec moi depuis l'instant sa mort, son assomption, comme disent les hommes. La mère a retrouvé son fils, et le fils, sa mère. Corps et âme, l'un à côté de l'autre, éternellement. Ah, si les hommes devinaient la beauté de ce mystère.
Yeah.
thème de Marie.
Oui.
Nous voulons parler de Saint-Joseph. Et
oui.
dans la tradition de l'Église catholique, dans la tradition de l'orthodoxie, chez les églises, les grandes églises protestantes, on a toujours eu beaucoup de respect, si on veut. Et je me souviens pas quel pape en a fait le patron des travailleurs. Et même Saint-Joseph, je pense que c'est le patron du Canada. Et vous allez nous faire connaître un peu ce personnage mystérieux.
Oui, comme il est dit d'ailleurs dans le Prions en Église pour les messes quotidiennes, aujourd'hui, il est écrit ces simples lignes qui sont très belles. En de nombreux pays, on célèbre aujourd'hui la fête des travailleurs. Prenant exemple du menuisier Joseph, père nourricier de Jésus, la liturgie nous rappelle la noblesse et les misères du travail humain dans un monde déchiré par les injustices. Il n'y a pas de doute que, surtout quand on pense au 19e siècle, puis encore aujourd'hui, et on le voit bien avec le travail des enfants, dont on a parlé beaucoup dans les nouvelles à l'occasion de l'assassinat d'un jeune garçon de 12 ans, qui était d'ailleurs chrétien au Pakistan, qui s'est fait assassiner parce qu'il avait révélé... Et aux États-Unis, à travers le monde, la misère dans laquelle il avait travaillé dès l'âge de 5 ans, quand ses parents l'avaient vendu. Et des milliers d'enfants travaillent comme ça, mais des milliers d'adultes, des millions d'adultes travaillent dans des circonstances absolument pénibles. Et au 19e siècle, déjà, il y a eu la révolte vraiment des ouvriers, des pauvres, des petits, contre un travail qui les exploitait. Et aujourd'hui... Dans cette fête de Saint-Joseph, l'Église rappelle que ce n'est pas nécessairement et uniquement le marxisme qui a su essayer de libérer les travailleurs de l'esclavage dans lequel ils étaient plongés et dans lequel certains sont encore plongés aujourd'hui, mais c'est aussi les papes à travers les siècles. Il y a de très, très, très beaux textes. Qu'on prenne un texte de Léon XIII. Léon XIII qui a vécu, n'est-ce pas, comme on sait, ce pape au 19e siècle. Eh bien, il écrivait « Pour ce qui est du travail physique, même dans l'état d'innocence, l'homme n'était pas destiné à demeurer totalement oisif. Mais ce que la volonté aurait alors embrassé librement pour la joie de l'esprit dans la suite en expiation du péché, la nécessité a imposé de le subir » non sans un sentiment de peine. Léon XIII a écrit des encycliques extrêmement puissantes pour essayer de libérer l'homme de la misère et de la souffrance. Et Saint Joseph nous rappelle que lui qui a travaillé très humblement, très simplement, auprès de Jésus, remplissant des commandes très ordinaires, j'imagine des habitants de Nazareth qui lui commandaient, lui qui était charpentier, à fabriquer une table, des chaises, un lit, des objets usuels. Et on dit dans le missel Fata que vous devez connaître, ces choses au sujet de Saint-Joseph qui sont assez belles au début. Simple artisan charpentier de la petite bourgade de Nazareth en Galilée, Saint-Joseph est le père de tous les travailleurs. Véritable instrument de Dieu, Joseph, durant toute sa vie sur la terre, demeure dans le silence et l'humilité. Il se montre un vrai serviteur, fidèle, doux et pauvre. Et c'est la pauvreté divine de son cœur qui fait de lui le gardien fidèle de la Vierge et de Marie et de Jésus. Et sans rien garder pour lui, dans un don total, personnel, il reçoit d'elle et de Dieu, son Père, celui qu'il doit garder comme son fils. Il est le père adoptif de Jésus. On n'y pense pas assez. C'est assez étonnant. Un jour, je sortais d'une église avec mon fils adoptif. J'avais un fils adoptif qui, malheureusement, est décédé il y a près d'un an, ces jours-ci. Et il était tout jeune de caractère. Je l'avais adopté à 18 ans, mais il avait comme 6 ou 7 ans d'âge mental. Et on sortait de la messe. Dans ce temps-là, il y avait plus de monde à la messe, ça prenait plus de temps pour sortir. On a eu le temps de regarder des tableaux qu'il y avait au mur, puis il y avait un tableau de Saint-Joseph, et il me demande, « C'est qui ça, papa? » Je lui dis, « C'est Saint-Joseph. » Il me regarde, « C'est qui ça, Saint-Joseph? » Ben, j'ai dit, « Voyons, c'est le père de Jésus. »« Oh, mais dis, je comprends rien avec toutes tes histoires. Tu m'as toujours dit que le père de Jésus, c'était le bon Dieu, et puis qu'il était son père depuis toujours, toujours, toujours. Il dit, t'arrêtes pas de dire toujours quand tu parles du bon Dieu. Alors, il dit, comment ça se fait? Il y avait deux pères. J'ai dit, oui, dans un sens. J'ai dit, c'est que Dieu le Père a regardé sur la terre quand Marie était enceinte pour lui donner un mari. Il a choisi ce qu'il y avait de mieux. Il a dit, ah, ça va être Joseph, qui va être le père adoptif de mon fils quand mon fils sera un homme sur la terre. Il me regarde, il dit, Jésus avait un père adoptif lui aussi? J'ai dit, bien oui, Jésus avait un père adoptif. Oh, ben, il dit, Jésus est bien plus intéressant que je pensais. C'est que ça le rendait similaire à Jésus. Il était content que Jésus ait eu un père adoptif. Il avait été choisi comme lui a été choisi.
Évidemment, ici, à Montréal, c'est difficile de pas voir l'oratoire Saint-Joseph et de réfléchir sur le frère André.
Et ça, encore,
c'était sa vie pour lui, Saint-Joseph.
Mais encore, les gens vont à l'oratoire souvent et voient la grande statue de Saint-Joseph toute auréolée d'or à l'église en dessous, là, et, ce qu'on appelle la crypte. Mais pour penser à qui était Saint-Joseph, c'est très difficile. Il y a peu de choses sur Saint-Joseph, un peu de textes. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est qu'il y a un ange qui lui est apparu, qui lui a dit d'aller en Égypte pour sauver Jésus du massacre des innocents. Alors, souvent sur les évangiles de l'enfance, il y a toutes sortes de discussions chez les exégètes pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On peut se demander toutes sortes de questions comme ça. Mais pour savoir vraiment qui est Joseph, tout ce qu'on peut savoir de lui, c'est une réflexion à partir de des observations. Hein. Comme dit Karl Barth, un grand théologien protestant, qui disait en 62, « Si j'étais un théologien catholique, je travaillerais à faire reconnaître la grandeur et l'importance de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a pris soin de l'enfant et il prend soin de l'Église. » Et c'est vrai que si on se tournait vraiment à réfléchir à ce qui était Joseph, un vrai père, un père qui prend soin de Jésus, qui prend soin de Marie, comme tous les pères de la terre qui ont du cœur, hein, c'est une charge énorme et importante que celle des pères. Et c'est là qu'on voit la grandeur de Saint-Joseph, c'est quand on compare l'importance de sa mission auprès des deux personnes si importantes que sont Jésus et Marie.
Alors, Joseph, on le représente souvent comme un vieillard. Ça me déçoit toujours. Je pense que c'était plutôt un homme vigoureux dans la fleur de l'âge. Et c'était un vrai travailleur.
Exactement. Et c'est ce qu'on trouve dans un ouvrage de Jean Ladame, publié aux éditions Résiac en 82. Ça s'appelle « Profil de saint ». C'est un petit texte, mais c'est très solide. Hein? « Représentons-nous un solide gaillard, le mot n'a rien de péjoratif, d'environ 25 ans. Car pour une jeune fille de 15 ou 16 ans, un homme de cet âge, c'est un bon gardien et un bon soutien. Il a de la santé, des muscles, de la vitalité. La sueur perle à son front, un peu de sciure s'attache à ses cheveux. Ses mains sentent le bois. Il est rude à la tâche, habile en son métier, qui consiste d'ailleurs à en avoir plusieurs entre les mains. Et voilà bien Joseph, l'artisan, l'ouvrier, non point sur le déclin et à proximité de la retraite, mais en pleine force physique, dans la splendeur de l'âge adulte, un être courageux qui accomplit parfaitement sa besogne. On a confiance en lui, car il tient parole et livre à temps la charrue commandée. Il ne majore pas les prix fixés, il ne trompe pas sur la qualité.
Est-ce que dans les évangiles, on a des paroles de Joseph?
Il semble être mort avant Jésus et longtemps avant Marie. C'est toute la discrétion, c'est comme disait un carme mystique qui s'appelle, de ce nom curieux, Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, n'est-ce pas, les noms de Carme, dans un ouvrage Intimité divine. Il dit « Une caractéristique de la vie de Saint-Joseph est de s'être consacré entièrement à la mission confiée par Dieu à ses soins, être le gardien et le soutien de Jésus et de sa mère. Joseph ne vit pas pour lui-même, pour ses intérêts personnels, mais uniquement pour Dieu qu'il sert en Jésus et Marie. Saint Joseph est ainsi le vrai modèle des âmes intérieures, des âmes qui aspirent à vivre totalement pour et avec Dieu dans l'accomplissement de la mission qu'elles ont reçue de lui. » Ça rappelle d'ailleurs la grande dévotion qu'avait Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, cette grande sainte. Elle avait une énorme dévotion à Saint-Joseph. Elle le comprenait. Elle vivait en intimité avec lui. Et c'est très solide. Il y a des gens dans l'histoire de l'Église, plus particulièrement au cours des 5 derniers siècles, qui avaient une grande intimité avec Joseph. Et je crois qu'ici, souvent, au Québec, étant donné l'importance de Joseph par l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, souvent, il y a eu du discrédit qui a été jeté sur Joseph par des esprits qui se veulent forts. Moi-même, d'ailleurs, je me souviens d'être allé à la fin des années 50 à l'oratoire Saint-Joseph avec ma nouvelle filleule, une juive convertie qui était très belle, d'ailleurs, qui avait 21 ans, et qui était très simple, et qui était comédienne à Stratford. Elle avait beaucoup de talent. Et nous étions allés à l'oratoire, et tout à coup, la foule s'est levée pour chanter « Oh Saint-Joseph, oh Saint-Joseph », ce cantique assez ordinaire, avec des chandelles à la main. Moi, personnellement, je serais resté dans mon banc tellement j'étais gêné. Mais quand j'ai vu ma filleule juive se lever puis me dire « Come on, come on, come with me, viens, viens », j'avais peur que des gens me reconnaissent dans cette procession très humble, mais j'étais très fier de le poser le geste, parce que j'ai senti tout à coup au fond de mon cœur naître une adhésion simple à cet homme simple et vrai qui était Joseph. Et j'ai commencé à comprendre Joseph à la fin des années 50, et combien de fois je suis allé à l'oratoire m'agenouiller simplement devant cette statue ou auprès de la tombe du frère André, avec mon fils d'ailleurs, priant le frère André, très simplement. Pourquoi
et
pas?
C'est là qu'on côtoie aussi, c'est un phénomène tout à fait religieux, tout à fait spécial. On côtoie des Indiens des Indes, des Vietnamiens, des Cambodgiens.
Ah, c'est absolument phénoménal.
Je suis toujours ému à chaque fois que je vais à l'oratoire de voir ce Joseph rassembleur, on dirait, de toutes les nations.
Toutes les nations et souvent des plus humbles, comme aussi de gens assez cultivés. Je remarque là souvent des compositeurs de musique que je connais, des gens cultivés qui sont là, très simplement. C'est qu'il y a un sens, probablement, chez Saint-Joseph, un appel, et particulièrement ce jour de la fête de Joseph Travailleur, un sens de la justice sociale. Je lis ici, dans un bel ouvrage du Père Calvez, publié chez Aubier, Église et société économique, il y a ce très beau texte. La justice sociale est présentée d'abord dans l'Église comme présidant à la répartition des richesses. C'est ce que l'Église demande, la répartition des richesses, les richesses qui sont produites par l'activité humaine. Les souverains pontifes sont par la suite restés fidèles à cette description. L'Église, dit Pie XII, à propos de la justice sociale, s'oppose, et écoutez bien ça, c'est Pie XII qui parle, elle s'oppose, l'Église, à l'accumulation des biens dans les mains d'un nombre relativement petit de richissimes, tandis que de vastes couches du peuple sont condamnées à un paupérisme et à une condition économiquement indigne de l'être humain. C'est un discours à l'Action catholique italienne de 47 de Pie XII.
Alors, Raymond Beaugrand-Champagne, là, nous abordons un problème dans notre dernier volet de cette émission spéciale. C'est le grand problème de la solitude. On dirait que plus les moyens de communication se multiplient, plus les gens sont seuls. C'est un phénomène absolument incroyable et très spécial.
C'est très spécial. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, on va chez des gens plutôt simples en général, qui vont nous recevoir avec beaucoup de gentillesse, mais la télévision continue à fonctionner. Et souvent, c'est la radio aussi dans une pièce voisine que des enfants écoutent. Il y a toujours un bruit qui tend à isoler les gens et la conversation. On peut presque pas avoir de conversation. Souvent, les gens ne pensent qu'à regarder des choses sur l'écran de télévision ou à écouter des choses, mais quant à en discuter, quant à avoir une conversation sérieuse, même à table, ça n'existe presque plus. Les gens ne se parlent guère, si ce n'est que quelques instants au téléphone, ou bien pour parler de choses inutiles. C'est étrange comme la solitude est extrêmement répandue. On a fait des statistiques. Vous savez qu'à Stockholm, plus de la moitié des gens vivent seuls. À Montréal, la solitude est extrêmement répandue. Même à l'intérieur des foyers, les enfants n'ont presque plus de lien, dans bien des cas, avec leurs frères et sœurs, s'ils en ont. Souvent, ils sont seuls, ces enfants-là, et n'ont pas de lien, de capacité de parler à leurs parents à peu près à compter de l'âge de 12 ans, dit-on. La colère s'installe souvent à l'intérieur des foyers. Et combien de gens sont complètement seuls? Combien de femmes sont abandonnées? Combien d'hommes sont abandonnés aussi? Et combien de gens âgés sont finalement seuls, même à l'intérieur des maisons de retraités? Il y a des gens qui ont le sens de la communication à l'intérieur. Je vais parfois parler dans des maisons comme ça, au nom de la vie, de vie montante, et je remarque que certaines personnes sont seules devant les ascenseurs. Ils sont 3-4 devant les ascenseurs, mais ils ne se parlent pas. Ils sont chacune avec leur marchette ou leur fauteuil roulant, mais il n'y a pas de conversation. Ils sont seuls. Ils sont seuls dans leur chambre et ont de la difficulté à parler à la personne qui vient faire le ménage. Mais la solitude est tellement grande que je me demande comment des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu, en la présence de Dieu, peuvent supporter une telle solitude. Ça doit être épouvantable. Je me souviens d'un jour où deux musulmans un peu volage, que j'avais aidé à l'aéroport et qui était venu me chercher chez moi pour me faire sortir un samedi soir, m'avait dit dans l'escalier, il me criait, « Mais, monsieur Raymond, venez avec nous, on va vous payer le whisky. » Il me payait le whisky. Je sais pas s'ils en prenaient eux-mêmes, ils sont pas supposés. Ils voulaient m'amener dans une discothèque, je leur disais que ça ne m'intéressait pas, mais ils disaient, « Mais c'est samedi soir. » Et là, ils sont mis à crier dans l'escalier, « Ah oui, mais vous, vous croyez en Dieu, c'est vrai, et vous êtes toujours avec quelqu'un. » Alors, j'ai dit, « Mais criez pas si fort. » Il dit, « Si ça dérange les gens, il était minuit, si ça dérange vos voisins, c'est signe que ce sont des chiens, disait-il. » C'est une façon très crue de s'exprimer, mais c'était des gamins, ils avaient 25 ans environ. Mais ils étaient très drôles dans leur foi très musulmane de se rendre compte que la solitude ne peut être supportée qu'avec la présence de Dieu. Dans la prière, dans la communication avec Dieu, qui porte justement les gens qui ont une communication avec Dieu à étendre cette communication avec Dieu aux voisins et aux gens qui les entourent et à devenir beaucoup plus tendre à l'égard des autres. Et je crois que la solitude ne peut être guérie que par des communications spirituelles, une communication vivante, intérieure. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont pleins de vie, de vitalité, d'enthousiasme et qui sont capables d'entrer en communication avec les autres. Mais pour ceux qui souffrent d'une solitude qui est souvent psychologique ou qui est souvent non voulue, il y a la solitude des gens qui sont infirmes, mais il y a aussi la solitude des gens qui, étant complexés,
ils se sentent mal aimés.
Ils se sentent comme mal aimés. Même s'ils sont aimés, ils se sentent mal aimés. C'est un problème très, très, très répandu de nos jours, de plus en plus répandu. La solitude de nos appartements, qui veut que dans ces maisons, comme moi, j'habite une maison-appartement, on ne connaisse pas finalement ses voisins immédiats, les voisins de droite et de gauche et de face. On se salue comme ça du petit hochement de la tête, mais on ne sait pas qui ils sont.
D'où l'importance, dans les grandes religions, de créer des petits groupes, des fraternités.
Oui, des fraternités, et de développer dans les paroisses, dans les grandes paroisses, un sens de fraternité. Je crois qu'il y a des prêtres et des gens qui entourent les prêtres qui savent créer On le voit surtout en particulier dans des églises anglicanes ou des églises protestantes. Je suis allé prêcher dans des églises comme ça et j'étais étonné de voir, peut-être parce qu'ils sont minoritaires, ils sont anglophones dans une ville francophone, il y a un échange étonnant des gens entre eux dès l'arrivée. Et après la messe chez les anglicans ou les luthériens, ce sont des messes finalement qu'ils ont, des eucharisties si vous préférez, il y a des rencontres. Et des rencontres très chaleureuses, formidables. Mais ça existe dans certaines églises catholiques de plus en plus, et c'est extrêmement important d'aider les gens à ce qu'ils se parlent, se rencontrent, s'entraident, créer de l'entraide. C'est formidable. Il y a actuellement le courant des gens qui ces custodes et reçoivent l'Eucharistie, vont l'apporter à d'autres et ainsi établissent des liens de communication grâce à l'Eucharistie qu'ils vont donner aux malades ou aux gens qui sont retenus à la maison. Mais il y a beaucoup plus que ça à faire, n'est-ce pas? Il y a toute l'entraide qu'on doit faire pour les gens âgés qui ne peuvent pas faire leur ménage ou faire leur commission. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'aller voir une personne très âgée de 90, 92 ans qui est encore chez elle et d'aller chez Provigo et d'aller faire son marché, de le lui apporter, de l'installer dans le frigidaire, dans les armoires. Le bonheur que ressentent ces vieillards, c'est merveilleux que de faire ça.
Oui, vous avez raison, parce que l'autre jour, je croisais sur la rue une de mes voisines. Moi, je vis dans une banlieue. C'est une toute vieille dame que je vois des fois. Puis j'arrête, et puis pour la première fois, je lui adresse la parole. Vous savez, il y a une nouvelle radio que vous pourriez écouter à 91.3 FM. Puis là, elle me regarde. Et elle me dit, vous savez, ça fait 3 jours que j'ai pas parlé à quelqu'un.
C'est incroyable quand on pense à ça, 3 jours. Mais il y a des gens qui parlent seuls dans la rue, on les voit, parce qu'ils n'ont personne à qui parler. Il y a aussi les gens un peu débalancés et que le monde fuit. Ça me rappelle ce pauvre fils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il me disait au début, quand je l'ai adopté, je vais mourir, tout le monde me dit que je suis fou. Et c'est triste de penser que ces gens-là souffre d'un tel rejet. Je crois qu'un peu de compassion, de sens de la communication, un désir d'abolir, de détruire la solitude, permettrait à beaucoup de gens de retrouver un certain équilibre, une certaine joie de vivre, puis un certain désir eux-mêmes d'aller autour d'eux, hein.
Oui, là, je m'avance un peu, parce que je crois que la radio, beaucoup plus que la télévision, peut combler l'isolation des gens et la solitude. La radio, c'est un médium doux qui fait pas mal en pénétrant. C'est comme un médium qui ne nous dérange pas et qui permet de prolonger nos pensées.
À moins que ce soit du hard rock.
Ah ben là, moi, j'ose même pas parler de musique violente.
Non, mais je crois que c'est ce que les gens me disent depuis quelques semaines quand ils écoutent Radio Ville-Marie. Ça leur plaît beaucoup, justement, parce que même si c'était les mêmes émissions qui étaient répétées pendant un certain temps, ils étaient agréablement nourris, comme bercés, me disait-il, par la musique, par les entrevues, par les lectures. Et parce que dans un livre ici que j'ai en main de Roger Bachère, publié chez Fides, « Marie et notre pèlerinage de foi », au tout début, il dit « Notre société occidentale vit une profonde crise de foi et la culture et la civilisation occidentale ont été façonnées par la foi chrétienne. Depuis des siècles, ces valeurs chrétiennes ont été accueillies et assimilées. Elles sont devenues notre humanisme, notre physionomie morale et sociale. » Puis il continue en disant, « Par-delà les grandes différences qui marquent les diverses situations des peuples, nous partageons un ensemble de valeurs communes à la civilisation occidentale. » Et ces valeurs communes, elles seront peut-être mises en lumière ici à Radio Ville-Marie parce qu'elles seront renourries de ces sources qui sont dans la Bible, je crois, et dans la grande tradition chrétienne, dans les vies des saints, et plus particulièrement dans le message que le Christ Jésus nous a donné, et qu'aussi les grands prophètes des autres religions ont pu nous donner. J'aimerais que l'on vienne parfois aux beaux textes du Coran. Il y a des beaux textes des religions orientales. Il y a de très, très beaux textes, même de la religion égyptienne d'autrefois.